Bonjour, j'ai toujours trouvé que l'Italie était le pays culturellement le plus proche de la France. Sans doute parce que je suis un méditerranéen, c'est vrai, mais pas seulement, je pense. Quand on est français, on n'est pas trop dépaysé en Italie, c'est vrai, on se débrouille assez vite pour baragouiner quelques phrases en mettant des O et des A à la fin des mots, par exemple. Bon, c'est une technique qui est assez limitée, hein, mais c'est vrai que parfois c'est utile. Et surtout quand on aime les choses simples, par exemple, bien manger, boire du bon vin. Bah en Italie, on se sent quand même très vite chez soi. Un pays aussi où on aime s'attabler, partager des bons moments en famille ou entre amis. Ce fameux art de vivre dont on essaierait de nous faire croire qu'il est franco-français. Bah non. En Italie aussi, on a cet art de vivre. On aime s'attabler, on aime les bonnes choses. Et voilà, c'est pour ça moi, que j'aime particulièrement ce pays. Ce 31e épisode s'intitule « Les vins italiens au sommet ». Bienvenue dans la Terre à boire. On est toujours... en train de parler des vins du monde, comme on les appelle. On a décidé de faire cette petite escale en Italie, parce que l'Italie, c'est quand même un des autres grands pays du vin, à part la France. La France n'est pas la seule. L'Italie est un de ces grands pays du vin.
L'Italie est première en quantité de production de vin.
Absolument, le pays numéro un en quantité.
200 cépages autochtones conservés.
Et Narnia nous en vient en qualité.
Exactement, et ça va être un peu ce qui va nous occuper. Pour vous présenter quand même rapidement Florence Saragoni qui nous accueille ici à l'ABC du vin by La Truffière. On est, voilà, on est tellement bien avec des fromages, des charcuteries et puis déjà de bons vins grâce à Dianelle Géraud qui était notre invitée dans le précédent épisode et qui est restée avec nous évidemment parce qu'elle va nous apporter toutes ses lumières sur les vins italiens. Bonsoir Dianelle.
Bonsoir Romain.
Philippe Biette est là.
Toujours là.
Voilà. Laurent Delceau est bien là.
Également.
Et tout frais descendu de l'avion, Patrice Defay qui est là.
Hola, buenos días.
Buenos días, parce qu'il vient d'Espagne et donc il aura un petit truc à nous raconter quand on fera le détour par l'Espagne. Parlons Italie. Vous avez déjà lancé vos premières réactions. Le plus grand producteur en termes de qualité. Une question, allez, volontairement provocatrice. Le vin italien a-t-il détrôné le vin français en termes de prestige?
Non.
Parce qu'il y a quelques années, on disait l'Italie, c'est la quantité, la qualité, on la trouve plutôt en France. C'est quand même faux d'une manière générale.
C'est faux.
Et dans la vision, d'abord, on peut penser que c'est faux nous, mais même dans la vision internationale du vin italien, j'ai l'impression que le vin italien a quand même sacrément la cote, y compris en termes de... Les vins italiens sont extrêmement chers, par exemple.
Je pense qu'il y a des extrêmes en Italie. C'est-à-dire que vous n'avez pas de juste milieu. C'est-à-dire qu'il y a... Soit vous avez du top... En termes de prix, avec des vins comme les Barolo qui s'échangent à des prix mirobolants.
Je pense à Antinori aussi.
Voilà, exactement. Et puis aussi, vous avez du tout venant qui a des prix très raisonnables, qui sont à des prix très raisonnables, mais où vous y retrouverez peut-être pas. Je pense qu'il y a peut-être un vide à combler sur la gamme moyenne, mais en tout cas, je pense que les Italiens n'ont pas à rougir de leur production de vin parce que. On est sur, pour moi, encore des vins de rêve, des vins de prestige. Je ne parle pas des super toscans. Les vins comme les Barolo sur la vingtaine d'années se confondent avec des grands Bourgognes. Ce qui est très rigolo, c'est que les Italiens n'ont pas toujours conscience de leur niveau de production en termes de qualité et lorgnent toujours vers la France en se disant bah, « nous, c'est notre exemple ». Alors que
c'est le contraire. Hein.
C'est plutôt le contraire. Hein. On serait toujours content de faire des vins comme les Italiens.
Tu as prononcé un mot, super toscan. C'est un peu l'exemple de ça. Dis-nous rapidement ce que ce sont ces super toscans.
Je pense que Daniel pourra compléter largement parce que je pense que Daniel a dû beaucoup croiser ces gens-là. Mais les super toscans, on va dire que c'est une bulle qui a été créée par les Américains. Le Super Toscan est un vin qui est issu d'un assemblage de cépages à base de Cabernet.
C'est des vins italiens, c'est en Italie, avec une philosophie du Médoc.
Ça m'emmerde.
Ouais, très bordelaise, et qui n'est absolument pas qui ne reflète absolument pas
le terroir.
L'histoire de l'Italie.
Et le terroir toscan.
On n'a pas du tout la typicité de l'Italie.
Le plus grand vin de la planète, voilà. C'est quand même les vins italiens. Je veux dire, aujourd'hui, si on n'avait pas eu les Romains, il n'y aurait pas eu de vin en Hongrie, il n'y aurait pas eu de vin. C'est grâce à eux tout ça.
Pas en Espagne, aux Romains. Pas en Espagne non plus d'ailleurs.
Et voilà, Espagne non plus. Donc aujourd'hui, rendons grâce à Dieu. Et Dieu, pour le vin, c'est l'Italie. Voilà.
Donc vous êtes dans une bulle qui a été un peu alimenté par des vins, par des journaux comme Decanter, Wine Spectator, et qui a été enflé par Sassi Kaia,
qui est le domaine
un peu emblématique des super toscans. Mais on est d'accord, on est tous d'accord que les vins toscans, c'est le Chianti, c'est le Sangiovese. Et
cépages autochtones.
Et voilà, et un cépage autochtone. Mais c'est pas cette influence bordelaise.
C'est un peu une aberration, quoi. C'est une histoire marketing, voilà, finalement. C'est un phénomène, ça date des années 80, 90.
Ouais, je pense que ça correspond beaucoup avec la prise d'ampleur de quelqu'un comme Robert Parker, qui a été beaucoup derrière ce phénomène également.
Ouais, mais je crois qu'il faut comprendre l'histoire. L'histoire, quand tu regardes toutes les AOC italiennes, contrairement à nous, elle n'est pas organisée en région. Elle est organisée par appellation, et des appellations qui tenaient très fort des marchés, et puis autour se développaient des choses. Voilà. Mais d'un seul coup, il y a des gens qui ont un peu... ces années 80 en fait, qui ont envie de faire éclater ça, et quelque part les super toscans ont participé à ça, c'est-à-dire que ça a éclaté ces appellations comme ça, les cœurs d'appellation qui étaient bloqués, puis autour les autres qui y arrivaient, et d'un coup ça a... Et qu'est-ce qu'ils faisaient ces vins-là? Ils s'appelaient IGP, ils ont copié, c'est un système français en fait. Voilà, simplement.
La DOC, qui est l'AOP française.
Ce qui avait été créé en 1880, les indications d'origine protégées, voilà. Et ça a complètement changé. Notre façon, nous, d'être organisés, notre côté cartésien par rapport aux Italiens, n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'en même temps, les super toscans, ils ont amené ça. Ils ont amené cette espèce d'éclatement. Et il y a plein de nouvelles régions qui sont apparues. Comme il y avait des régions qui étaient très méprisées. Les régions du Sud, de la Sicile, étaient très méprisées. Et il s'y fait des grands vins. Les Pouilles, par exemple. Il y a des cépages fabuleux. Hein.
Alors, on a parlé des super toscans. C'est fini. On ne va pas en dire du mot à part les choses toutes mauvaises qu'on a pouvait en parler. Même si j'imagine que c'est des bons vins, mais c'est un peu une aberration. Voilà.
Mais disons que c'est des vins qui sont bodybuildés, donc... Vous y retrouverez si vous aimez les vins bordelais, sans pour autant dévaloriser les vins bordelais, mais on est vraiment dans cette filiation là. Après, est-ce que ça reflète le terroir? J'en suis pas sûr.
Bah là, ce qui est marrant, c'est qu'on est un petit panel d'amateurs, et la preuve en est, c'est que ça fait rêver personne. Donc
c'est peut-être aussi une indication sur les critères qui font les amateurs. Alors soit c'est dans le temps, c'est-à-dire 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard, ça nous paraît un peu débile, soit c'est géographique, c'est-à-dire qu'on n'est pas des amateurs américains, on est plus attaché au terroir.
Je pense que justement cette bulle a éclaté, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus beaucoup de super toscan, ouais. Hein, c'était un phénomène 80-90. Aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse dans les vins italiens, c'est qu'il y a beaucoup d'ovnis. Un peu comme vous en trouvez en Loire. Et si vous allez dans le nord, là, vers les Dolomites et les endroits où ça parle un peu allemand, Elisabetta Foradori fait des vins incroyables en amphore. Voilà, Gravener, Radicon, qui font des vins blancs en macération pelliculaire, qui sont, en anglais on dirait out of this world, et qui sont extrêmement bons. Et puis, dans le sud, vous avez des très bons vins dans la région de Naples. Vous avez des vins en Sicile, on en parlait il y a quelques instants avec Daniel, Pacio Picciaro sur les contreforts de l'Etna en Nerello Mescalese. Donc le cépage emblématique rouge de la Sicile. L'Italie est un vignoble très complexe avec énormément de cépages autochtones. Il faut s'y retrouver. Et là, je pense que ce soir, on a deux très belles illustrations devant nous qui vont nous faire voyager, à mon sens.
Alors, voilà, fille des super toscans, parlons d'un vin toscan. C'est un vin que j'ai apporté. La cuvée s'appelle Libero. C'est d'un domaine qui s'appelle Fuorimondo, Mondo, qui se trouve en Toscane. Ça s'appelle Campiglia Marittima. J'ai pas l'accent italien, mais voilà, je fais des efforts. C'est en gros au sud de Pise, au niveau de Piombino. C'est cet endroit où on surplombe et on voit tout l'archipel toscan. On a l'île d'Elbe, on a l'île de Giglio, on a la Corse un peu plus loin. Alors, on voit pas la Sardaigne à cet endroit-là, mais on a comme ça... plusieurs îles, Capraia, il y a des îles qui sont habitées, d'autres pas, il y a des îles sur lesquelles on fait du vin d'ailleurs. Voilà, moi c'est. Alors j'ai une petite histoire personnelle avec le vin, donc je vais la raconter rapidement, mais on est en vacances donc dans cet endroit-là, un endroit que je conseille à tout le monde. Tout le monde connaît, on connaît un peu la Toscane, mais là on était au bord de la mer et complètement à contre-temps, voilà, plutôt aux vacances de Toussaint. Il se trouve qu'on venait de lancer ce podcast, donc pour la première fois de ma vie, j'avais emmené une RVF avec moi en vacances, ce qui ne m'était jamais arrivé. Je vois un petit encadré, tiens. Il paraît qu'ici, il y a un Belge qui fait du vin, qui n'est pas loin. En fait, on est à 10 km. Okay, donc, j'appelle. Voilà. On rencontre ce gars-là. Il s'appelle Olivier. Son nom, c'est Paul Morandini. Il est descendant d'Italien. Il s'est installé à 40 balais à peu près. Il était venu en Toscane. Et puis, un jour, il est venu. Il a goûté un vin. Il s'est dit, voilà, révélation. Il a laissé tomber ce qu'il avait, son métier d'avant à Bruxelles. Et il a commencé à faire du vin. On a rencontré ce gars-là, c'était hyper simple. C'est là qu'on a croisé, j'ai rencontré Isabelle Jomain, qu'on a vu ici dans une émission il y a quelques temps, qui organise des salons des vins, qui organise
pendant le cycle champagne.
Vignerons en Seine, exactement. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Il nous a emmenés dans les vignes, dans le chai, nous a raconté un peu toute l'histoire du truc. On est monté tout en haut dans les dernières vignes qu'il a plantées. C'est un panorama extraordinaire. Vous êtes à 300-400 mètres d'altitude, vous avez là la mer pratiquement à 360 degrés, vous voyez la mer partout, toutes les îles que je viens d'évoquer. Il y a un soleil éclatant, même au mois de, c'était au mois d'octobre, novembre. Il y a cette fraîcheur parce qu'on est un petit peu haut. Voilà, il y a ces vins qu'on goûte en bas des cuves. Donc c'est une vraie rencontre. Moi, c'était la première fois que je rencontrais vraiment pour de vrai un vigneron et c'était un moment assez magique. D'autant que ça s'est prolongé par un déjeuner. Donc s'il y a des gens qui vont dans ce coin-là, je leur conseille. Da Alcide, chez Alcide, un restaurant extraordinaire. Gastronomie locale, mais en mode gastronomique quand même, hein. Il y a vraiment une touche, c'est la cuisine familiale, mais voilà, façon quand même très raffinée, extraordinaire. Et puis c'est là que j'ai découvert aussi ce que c'est que de déjeuner avec des vignerons, parce qu'il y avait un de ses copains qui arrivait de l'île de Giglio qui était là, où ils ont ouvert des bouteilles sans s'arrêter. On n'en buvait qu'un tout petit peu, mais c'était pour faire goûter. J'ai goûté des vins oranges italiens. Voilà, c'était un moment merveilleux. Donc, je ne pouvais pas parler de Toscane sans parler de ces vins. En l'occurrence, la cuvée qu'on goûte là, c'est Libero. C'est un cépage, c'est pas un Sangiovese. C'est un cépage Ciliegio Giollo, qui, si j'en crois Olivier, s'appelle donc... ça veut dire la grosse cerise. Et donc, avec des notes un peu kirschées comme ça. De fruits. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est que c'était un cépage qui avait plutôt la réputation d'être pas très pas assez acide, pas assez tendu, pas assez frais. Et en fait, il s'est rendu compte, lui, en travaillant un peu ce cépage, que c'était la complantation qui voulait ça. Parce que c'est une terre dans laquelle, historiquement, on complante plusieurs cépages sur les mêmes terres. Et du coup, quand les vendanges étaient faites tout en même temps, c'est-à-dire au moment où le Sangiovese était à maturité, bah celui-là, il était un peu passé. Il avait passé la maturité. Ça se joue à 15 jours près. Hein. Et que celui-là, quand on le cueille juste à maturité, on retrouve du tonus, on retrouve de la tension. Et donc, c'est ce qui l'amuse dans cette cuvée-là, c'est de faire un 100% Ciliegiollo, qui est un cépage un peu moins prestigieux que le Sangiovese, mais qui révèle des choses intéressantes. Pour lui, c'est un peu le lien entre un premier vin qui est un Alicante, qui est vraiment plus immédiat, et un Sangiovese qui est plus... destiné à de la garde. Et donc là, on serait un petit peu dans le trait d'union entre les deux, à la fois du fruit et de la garde.
Voilà. C'est super, hein, c'est juteux.
Ça, voilà.
C'est juteux, t'en as plein la bouche, c'est frais, t'as un grain très très fin, t'as l'impression d'avoir un pollen dans la bouche comme ça. C'est savoureux, quoi, tu le bois. Et en plus, il y a un équilibre alcoolique, hein. Je sais pas combien ça titre, mais c'est pas du tout brûlant. Ouais. Quoi.
Puis avec une acidité et une fraîcheur, c'est frais. Je trouve ça dingue. Je disais à Daniel tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir un très beau Cabernet Franc de Loire dans la bouche.
Ah, c'est vrai que l'on a ça.
Il y a un côté légèrement végétal, très agréable. Et puis le côté boîte à cigare, un peu fumé, un peu mentholé, poivré. Et puis, comme tu disais, le côté kirché, avec des tanins très bien intégrés, c'est très soyeux. c'est en bouche, c'est un vrai régal.
C'est des petites baies sauvages aussi. Ouais.
Fruits noirs.
C'est bon.
Ah, il m'a recommandé, il m'a dit que ça avait bien fonctionné en mangeant du gibier, enfin, des viandes un peu fortes comme ça, mélangées, avec de la confiture d'érel aussi. Hein, un côté hyper acide et en même temps le côté très fort de la viande. Et les petits fruits sauvages très acides, et que ce vin-là se frayait un passage entre les deux. Ouais, mais je suis ravi qu'il vous plaise. Pour une fois que c'est moi qui fais découvrir des vins.
On a quel niveau d'alcool, juste pour savoir
sur la. Ça doit être écrit derrière.
12,5.
Je me suis bien trompé.
Ouais, franchement, je n'ai pas surprise. On sent pas l'alcool. Quoi. C'est frais, gourmand. Une régalade, merci.
Bah, c'est moi qui suis ravi. Merci à Olivier pour ce super moment qu'on a passé. Alors, en fait, moi j'étais resté sur cette rencontre assez simple et très camarade. Et c'est continué comme ça. Mais après, je me suis renseigné un petit peu de ce qu'il en était de ce vin. En fait, le Fourimondo, on le trouve pas mal d'endroits, quelques endroits dans Paris. J'ai trouvé moi Quinto Vino, qui est un petit resto italien au passage des Panoramas. Qui fait des choses sympas. D'ailleurs, le caviste, quand il m'a donné le vin, était en train de servir un gros Teddy Solé d'Arena. Ça m'a rappelé quelque chose. Il est aussi servi dans quelques restaurants comme le Georges V, le Louis XV d'Alain Ducasse, l'Arpège d'Alain Passard chez Taïvan, et j'en passe. Voilà, c'est des choses que je ne savais pas du tout quand je suis allé pointer mon nez.
Je veux dire que c'est un vin cher.
Celui-là est un petit peu cher. En fait, je voulais prendre la cuvée.
Là, tu l'as pris.
Ouais, là, je l'ai acheté au prix caviste, donc il est plutôt entre 30 et 40. Par contre, il y a une cuvée Lino qui est moins chère que ça, de mémoire. Il y a une cuvée qui s'appelle Daco, qui est également plus abordable. Je recommande à tous ceux qui voudraient aller faire un tour en Toscane, hein, d'aller faire un petit tour de ce côté-là, du côté de Piombino. Et voilà, on connaît la Toscane plutôt pour les terres, et la partie maritime est vraiment magnifique. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et est-ce qu'on passe au vin suivant? Daniel nous a dit qu'elle aimait
non,
bien ce vin.
Je pense qu'on peut encore le garder sur le côté un peu vert. Moi, je ne trouve pas acide, mais il y a le côté verdeur, tension qui peut l'emmener encore 3-4 ans, je pense. Assez facilement.
Ça voyagera longtemps, ça.
Et tout en étant très, très accessible tout de suite. Quoi. C'est pas du tout onguleux, c'est très.
On l'a un peu
très
carafé.
Facile,
hein,
très bon accès.
Pour qu'il s'ouvre. Alors voilà, introduction au vin italien. Alors on n'est pas sur un des cépages emblématiques, qui est le Sangiovese, qu'on connaît un peu parce que quand on a fait la Corse, on a beaucoup parlé de Nieluccio, qui est donc le Sangiovese. Ah oui, il m'a dit que le cépage, Ciliegiolo, était quand même un parent du Sangiovese. On pensait que c'était le fils et en fait c'est le père, ou l'inverse. Voilà, je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il en est. Florence?
Oui.
Propose un autre vin italien,
le
un peu plus au sud.
Le deuxième vin italien, moi j'ai choisi Planeta. J'ai choisi Planeta parce que c'est un vin sicilien et que j'ai eu l'occasion d'aller en Sicile pour mes activités de cuisine. Et je connaissais déjà le vin avant de venir en Sicile, mais j'ai eu l'occasion de le déguster dans une onoteca. Et c'était un vin que je voulais faire découvrir parce que c'est pas quelque chose, quand on parle vin italien, on va pas forcément penser à la Sicile en tout premier. J'ai choisi celui-ci, c'est le Santa Sicilia. On est sur un cépage Nero d'Avola, donc assez typique de la Sicile. Donc je voulais sortir un petit peu des sentiers battus. En même temps, je ne vais pas me planter, c'est pas Daniel qui va dire le contraire. Planeta, c'est pas le petit domaine méconnu, c'est quand même un très grand domaine. 85, les premiers au niveau de la plantation des vignes, de mémoire. 95, la construction du Cheikh. Ils sont sur plusieurs régions de la Sicile, Memphis, Victoria, Noto et Etna Capomilazzo. Ils ont commencé déjà très grand, aux alentours de 150 hectares. Maintenant, ils en sont à 390 hectares.
Un petit domaine de paysans, quoi.
Tout petit, hein.
Domaine de 400 hectares.
C'est une combinaison. En fait, c'est une combinaison de petits domaines.
Voilà.
Parce qu'ils ont des chais. partout.
C'est un peu une coopérative.
Voilà, ils ont des chais à Memphis, ils ont des chais à Victoria, ils ont des chais à Noto, ils ont des chais partout.
Tu sais, faire bon et grand, c'est compliqué. Et c'est pour ça, eux, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ils ont... Le mec est fasciné par la qualité des sols, que tu nous expliquais très, très bien, et la complexité du terroir sicilien. Et à chaque fois, que ce soit... Ils ont récupéré des domaines dans des endroits, ou implanté même des vignes dans des endroits à cause des sols différents, parce que lui, c'est un fou total de ça. Et ils ont monté une winerie sur place, bon, vous avez les moyens, hein, mais ils ont monté une winerie sur place, tout est autour de la vigne. Quelque part, ils ont redonné une pêche au vignoble sicilien. Avant, en Sicile, c'était une énorme production de vin de merde qui partait aux États-Unis à l'export. Enfin, pas de vin de merde, de bons vins, mais voilà, très simple. Et eux ont commencé à donner une autre dimension. Avec c'est vrai, ils font des volumes, mais toutes, c'est des petites structures à chaque fois.
Ils expliquaient qu'en fait, ils ont voulu faire du Nero d'Avola, puisqu'on parlait du Nero d'Avola. Ils ont voulu le faire parce que c'était un cépage assez typique de la Sicile. Donc, ils se sont dit, le meilleur endroit au niveau du sol pour le faire, c'est Noto. Donc, allez hop, on s'installe à Noto, on prend quelques vignes, on fait un petit chai et on s'installe là-bas pour faire... Leur but, c'est de faire le meilleur Nero d'Avola de Sicile. Je pense qu'ils n'en sont pas loin. Voilà. Et ça a été le cas un petit peu pour, à chaque fois dans leur recherche, de trouver l'endroit où il y aurait les meilleurs sols et d'aller s'installer et de faire à chaque fois quelque chose. Il y a vraiment une envie de typicité et une envie aussi de travailler dans le respect du terroir, parce que ils ne font pas que du vin. Et ils ont aussi les amandes, ils ont bien sûr les oliviers pour l'huile d'olive. Chaque petit domaine n'est pas que pour la production de vin. Et à chaque endroit, il y a aussi un côté un petit peu maison d'hôte où ils reçoivent les gens, ils leur font découvrir les produits locaux et aussi il y a la cuisine. La cuisine est très importante. C'est pour ça que moi, j'ai eu l'occasion d'aller les voir. C'était aussi dans le cadre de ce côté cuisine. Voilà.
En tout cas, il y a un nez absolument incroyable. Ouais.
Alors, sur celui-ci, donc on est sur Santa Sicilia. Santa Sicilia Nero d'Avola. J'ai voulu faire ça Nero d'Avola puisque c'est un cépage typique de la Sicile. Il faut savoir qu'ils travaillent aussi les cépages internationaux. J'avoue être une amoureuse folle de leur Syrah. Je trouve que c'est magnifique, mais voilà, je voulais faire un cépage typique de la Sicile. Ils travaillent aussi le Merlot, le Cabernet Sauvignon, le Chardonnay. Leur Chardonnay est très très beau aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on goûte nulle part ailleurs.
Et les Syrah Swallow.
Et alors après, sur les cépages autochtones, ils travaillent d'autres choses. Ils travaillent Nerello Mascalese, ils travaillent Grenacchico, ils travaillent Caricante, ils travaillent Moscato di Noto, ils travaillent Frappato. Voilà, ils travaillent plusieurs cépages locaux, mais à chaque fois au niveau de leur région de production, ou à Memphis, ou à Victoria, ou à Noto, ou juste à côté de l'Etna, ou à Capo Milazzo. Noto, c'est là où est produit Santa Sicilia. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on est dans l'extrême sud-est de la Sicile. Et au niveau du sol, on n'est pas sur un sol volcanique, exceptionnellement sur celui-ci, on est sur un sol calcaire. Et Nero d'Avola se plaît très bien là, puisque ce sol calcaire fait un peu office d'éponge et garde l'eau et permet en fait aux cépages de bien se développer, puisque Sicile, on est en plein Méditerranée, vraiment centre de la Méditerranée, et il y a le côté solaire, mais ce qui est très agréable, c'est qu'il y a le vent. Il y a le vent, et ce vent est très important pour rafraîchir. Eh bien, allez-y, goûtez-le. Dites-moi ce que vous en pensez.
Je trouve ça magnifique, moi. Le nez, comme toi, hein, c'est à côté figue confite, ça a des notes de pruneau, ça a des impressions.
C'est demi-six. Archi confit. J'avoue, je suis partie loin dans le millésime.
12 ans.
Mais ça, c'est un peu fumé, c'est un peu poivré. Il y a... On sent au nez que c'est un vin qui est puissant. Hein.
Alors, il semblerait que Nero d'Avola ait des caractères génétiques semblables à la Syrah. Voilà. En empélographie pure et dure. Alors, qui est le cousin de qui est le parent de qui là, je ne suis pas assez forte en ampélographie pour pouvoir vous dire.
C'est moi.
Le nez est vraiment hyper surprenant, quoi, le côté confit.
Et la bouche, tu as l'impression d'avoir... Moi, j'ai l'impression que dans ce vin, tu avais des raisins confits, quoi. Tu as cette impression d'avoir un chausson, tu sais, les chaussons, les pains au chocolat, avec de l'intérieur, à l'intérieur des petits raisins confits, des choses comme ça. Tu as tous ces goûts en bouche, quoi.
Moi, je mange un
et
figolu.
C'est super soyeux.
Ouais, super réglisse. Un côté réglisse ou pas
figolu,
ouais. Moi, réglisse, ça m'évoque un peu le réglisse.
Mentholé, réglisse.
La pâte de coin, la pâte de figue, la pâte de fruits, et sans le côté sucrailleux. Puis la bouche est d'une suavité, ça te glisse avec une élégance. Ouais,
c'est les tanins sont super velours. Tout parce qu'on sent qu'il y avait du tanin dans ce vin, mais le fait d'être sur 2006, Florent, tout velours, et c'est très très long.
Je l'ai avalé, je l'ai toujours en bouche, quoi. Ça fait 2-3 minutes.
On est sur quand même 14 degrés d'alcool. Et
tu sens pas.
On a quand même une fraîcheur.
Ça passe crème.
Ça, oui. Tout seul. Hein.
Sublime bouteille.
Est-ce profitez-en, c'était la dernière.
La classe.
Un vin proposé par Florence, et c'est un vin que vous distribuez.
Avec ça, oui, c'est un vin que j'ai vendu à Christian. Ouais. Voilà.
Qu'est-ce qu'on mange avec ça?
Bonne question, Patrice.
Moi, je ferais bien un lapin pruneau avec ça. Je ferais un lapin confit au pruneau, mais on peut aller sur la cuisine salée sucrée.
Sur le dessert
quoi.
Aussi.
Ouais. Oui, sur un
mousse
dessert.
Au chocolat.
Un truc au chocolat, ouais, avec des raisins ou des fruits secs.
Une forêt noire, une bonne forêt noire, c'est pas ça.
Ah oui, une forêt noire.
Oh, oui, chocolat et cerises, ouais. Là.
Disent-ils en mangeant du saucisson. Comment les mecs qui mangent du saucisson se projettent sur du chocolat, ça reste un mystère.
On est des malades.
Oui, chocolat lacté qui est hyper
bon. C'est sympa. Hein.
J'ai une question. Est-ce que avec ces deux vins là, on présente des moutons à cinq pattes, comme vous disiez tout à l'heure sur les précédents vins dans le précédent épisode, ou est-ce qu'on est un peu représentatif quand même de l'Italie ou...
Je pense que le tien c'est vraiment un mouton à cinq pattes. Je pense que ça c'est pour moi un grand classique des vins italiens, mais ouais, une grande beauté. Quoi. Mais
c'est vraiment... grande expression.
Je pense que comme on est un peu en Sicile, tu parlais Florence là du cépage Frappato. Moi, il y a une personne en Sicile qui fait des grands frappato et que j'aime beaucoup.
Donc Orléans, non ?
Non. C'est, donc,
il frappato pas mal, effectivement.
Et c'est une femme. C'est Arianna Occhipinti qui fait des frappato incroyables. Donc si jamais vous avez entre les mains un jour, vous croisez chez un caviste une bouteille d'Occhipinti en frappato, sautez dessus, c'est divin. Voilà. Et puis aussi, je recommande aussi sur l'Etna, Pacio Picciaro en Nerello Mescalese, qui est le deuxième cépage très, très emblématique de la Sicile.
Voilà, j'avoue, je ne pouvais pas me planter hein, en choisissant Planeta. Bah là, c'est quand même le domaine de référence quand on pense à la Sicile.
Il travaille dans un esprit magnifique bouteille. Bio, ces gens-là, ou pas du tout, plutôt terroir
Très terroir.
Si, les gens sont très inspirés par la biodynamie, en fait, aussi. Hein.
Oui, il faut...
C'est pas un... Moi, c'est un absolu non plus, la biodynamie.
J'ai oublié de le dire, mais effectivement, le Furimundo est également, évidemment, un vin bio sans intrants. Biodynamique, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais en tout cas Olivier est très très impliqué dans la défense du vin bio et il mène même une campagne sur la transparence des vins bio au niveau de la Commission européenne. Il y a toute une bataille législative pour voilà, dans laquelle il est très impliqué dans l'association TOWA, dont on reparlera sûrement.
La Planeta, en fait, il voit l'agriculture comme quelque chose d'assez global. Pour eux, on ne fait pas juste du vin et juste de la vigne. On doit travailler les oliviers, les amandes. Bon, c'est ce que j'ai retenu. Mais en fait, ils travaillent sur toute la culture de manière très générale. C'est pas juste, on ne fait que de la vigne, on ne fait que du vin. C'est vraiment une vision très globale. De terroir et d'agriculture. Voilà, c'est la particularité de Planeta. C'est qu'ils ne travaillent pas uniquement que la vigne pour ne faire que du vin. Ils travaillent vraiment tout plein d'autres produits. Et ils ont vraiment... ils sont assez particuliers dans le côté hospitalité. Ils aiment énormément recevoir des gens pour leur présenter le vignoble, les domaines. Parce que je dis les domaines parce que ce n'est pas un domaine. On ne peut pas parler de Planeta comme d'un seul et unique domaine. C'est plein de petits domaines, tous rattachés par la même famille. Mais... c'est un petit peu la façon de Planeta.
Et donc ce Planeta, là, on peut se le procurer à quel prix à peu près?
Ici, à la boutique, on était à 30 euros.
D'accord, bon, c'est bien.
Ouais, c'est raisonnable par rapport à la qualité de ce
qu'on a. J'ai un côté de tabac là, sur la fin, je sais pas si vous l'avez là, qui est assez incroyable aussi. Il se révèle au fur et à mesure. Donc je trouve ça hyper, hyper beau.
Les Chianti? Dis un mot des Chianti? Non, oui, comme ça. Parce que c'est les plus célèbres quand même quand on parle des, Chianti, des vins italiens. Chianti,
plus difficile
Barolo.
D'accès. Plus difficile, ouais. C'est plus difficile d'accès parce que c'est vraiment pas. C'est comme le Piémont, c'est pas des goûts qui sont. Moi, je suis les premiers Sandrone que j'ai importés en France, hein, les premiers Sandrone. J'ai pris pas un gadin autant qu'avec mes finaux, mes palo cortado, mais c'était très difficile. Les vins du Piémont, avoir des vins avec des arômes aussi fabuleux, des acidités comme ça, et puis des paquets de tanins en bouche, il y a 20 ans, c'était difficile, hein, le Piémont. La Toscane, ce qui surprenait les gens sur le Sangiovese, c'est le côté un peu janséniste, un peu austère du vin, le côté un peu, j'ai de la vivacité,
rectiligne.
J'ai des tanins, voilà. Hein.
Rectitude.
Le Sud étant plus accessible au goût français, mais maintenant, les Français évoluent. Leur goût aussi, la jeune génération, là, c'est comme la jeune génération de vignerons. La jeune génération de sommeliers est absolument passionnante par ses connaissances, comme on voit Florence, là, qui connaît des tas de choses, qui a voyagé dans les vignes. Autrefois, certains sommeliers me disaient, il y a 40 ans, des bêtises en me disant que oh, le meilleur cépage sur Saint-Nicolas de Bourgogne, c'était le Gamay. Et oui, on m'a fait ça, déjà, on me l'a dit. Aujourd'hui, je passe dans un petit bistrot de quartier à Bastille, un bar, je montre, j'avais une bouteille de Maverick à la main, le mec il me dit, ah, Maverick, c'est en Australie, juste en dessous d'Enschke, j'y ai vinifié il y a 3 ans. Ben voilà, c'est ça, quoi. La jeune génération qui a 20-30 balais, aujourd'hui, c'est comme la génération. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du vin en France, qui bouge d'une façon fabuleuse, quoi.
Une ouverture à ces territoires.
Une connaissance, hein.
Bah très bien. Je ne sais pas si on a tout dit sur le vin italien. Hein. C'est un peu une gageure de dire ça. Je pense qu'on n'a pas tout dit sur
le
vin italien.
L'idée, c'était plutôt de piquer des coups de cœur et de présenter des coups de cœur parce que je pense que, franchement, l'Italie n'a rien à envier à la France. Ils ont une gamme de vins aussi riche et éclectique que celle que l'on peut trouver en France. Et ce serait trop long d'en parler que on retrouve on en a parlé de Foradori qui sont qu'est-ce que c'est magnifique
Foradori c'est
Trentino Alto Adige. C'est un peu les jurassiens de l'Italie.
C'est son fils qui vinifie maintenant, mais c'est aussi beau.
Le nom du cépage est imprononçable.
Je ne le prononcerai pas.
Si. Tirol d'Ego
Rotaliano.
Tirol d'Ego Rotaliano.
C'est ça.
Tirol d'Ego Rotaliano. C'est super en Italie.
C'est et donc, c'est tout vinifié en amphore, hein, évidemment.
C'est pareil. C'est
cristal.
Il y a un territoire, un cépage, un vin un accord mévin à faire.
Oui, voilà. Alors,
je me souviens juste d'être allé du côté de Sorrente, etc., d'avoir des anchois pêchés à Cetara et derrière un petit blanc. Pas très très loin de Naples, là, bah oui. Et vous mettez ce petit blanc là-dessus, il y a des accords terroirs fabuleux partout en Italie, en fait.
Mais quand on regarde la structure géographique de l'Italie, avec cette chaîne de montagnes d'un tambo, de haut en bas, puis voilà, cette limite, là où c'est absolument fabuleux, quoi, la limite avec la France, les frontières avec les pays alpins, le Piémont, là on arrive vers les pays de l'Est, puis cette bordure, entre cette bordure de mer de tous les côtés, la chaîne de montagnes centrale, la botte, quand on regarde les sols, les terroirs, la Sicile là derrière, et puis tout ce qui s'est passé au niveau géologique, quelque part, ils ont une putain de chance, ces Italiens, d'avoir des sols.
Ils vont un peu chier, d'ailleurs, on peut le dire.
Qu'ils ont su exploiter de façon fabuleuse, hein. Il n'y aurait pas eu les Romains, on n'aurait pas de vin aujourd'hui, nulle part, en Europe, quoi, hein. Merci les Italiens.
Merci les Italiens, merci les Romains.
On va conclure là-dessus.
Je pense qu'on peut
conclure
là-dessus.
Merci les Italiens.
Merci à tous pour cette petite balade en Italie. On va continuer par l'Espagne. Un paysage complètement différent. Si. Des vins différents. Et également, merci Daniel, Philippe, Laurent, Patrice, Florence. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler.
À la semaine prochaine, Romain, au revoir.
Tout de suite, Daniel. Allez, direction l'Espagne. Bye, 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 bye.